Il 61esimo Festival Internazionale del Film di Locarno presenta.
Pravda.
Et heureusement que le professeur Y est avec nous en direct de Locarno, parce qu'en ce moment, on regarde aussi dans nos studios la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin. Et franchement, autant regarder un pneu qui brûle au bord de l'autoroute. Voilà. Y, c'est à vous.
Oui, mais nous ne regardons même pas la cérémonie des Jeux Olympiques de Pékin.
Nous sommes journalistes, nous devons nous informer. Voilà.
Assez, Roger.
C'est un peu pénible.
N'en faites pas trop. D'ailleurs, j'ai mis mon t-shirt Reporter sans frontières pour l'événement et pour l'émission. Donc, on est en compagnie de toute l'équipe du film Valpurgis, de Frédéric Chauffat. Il y a José Dillo, il y a Carole Rieussec, Jean-Christophe Camps, qui sont les réalisateurs de la musique. José Dillo, il faut le dire, c'est l'unique acteur de ce film, parce que le film de Frédéric Chauffat, Valpurgis, présenté ici, c'est un monologue de 60 minutes environ.
Ouais, exactement.
60 minutes pile. C'est fait pour tenir dans un format télé, court-métrage, où il y avait une...
Non, c'est qu'il y a plein de festivals qui acceptent que des films à partir de 60 minutes et d'autres pas en dessus de 60 minutes. Donc, il oscille entre 59:30 et 60 minutes 30.
Voilà. Et donc, c'est un film qui est basé sur un texte, Roger, si vous m'écoutez.
Oui, je suis là.
Qui a été écrit en 1933 et qui évoquait déjà la montée et les horreurs d'un régime nazi qui allait arriver au pouvoir, qui était en train de gravir les échelons du pouvoir en Allemagne. Et dans ce texte, on découvrait déjà tout ce qui allait se passer. C'était un peu prémonitoire. Et ce texte est lu et mis en scène. Il est parsemé de citations que vous avez ajoutées.
On retrouve... Non, les citations sont de Karl Kraus, sont du texte et sont aussi de 33. Il n'y a aucun ajout dans le texte.
Voilà, donc c'est un montage. Texte, voilà, mais je découvre aussi, parce que j'ai vu le film ce matin. Et je trouvais que c'était assez ironique, effectivement, d'avoir ça aujourd'hui, le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Pékin.
Absolument.
En parallèle avec les fameux Jeux de 36, qui sont les plus similaires qui soient avec ceux qu'on voit maintenant. Donc, un pan d'histoire et surtout une prestation d'un comédien, José Dillo, qui a l'air un petit peu inquiet par le micro. Il faut se rapprocher, il ne faut pas avoir peur, mon grand. C'est pas plus intimidant que la caméra quand on est seul face à la caméra pendant 60 minutes. Alors, ce texte, moi j'ai d'abord une question parce que je suis toujours bluffé par ça. Tout d'un trait? Non, quand même pas.
Oui, tout d'un trait. On a tourné en un plan unique, en fait.
De 60 minutes.
De 2 heures.
De 2 heures.
C'est la durée de la sélection qui a été faite du texte de 360 pages. Donc, ouais, tout d'un trait.
Mais pas appris par cœur.
Mais oui.
Si.
Ouais.
Prouvez-le.
Je n'ai aucune idée sur Hitler. Je me rends compte qu'avec ce résultat affreux du mail, il y a eu un spectacle tiré de... Je vais après consulter vos archives.
Non, ce qu'on veut raconter, il y a toute une origine en fait à ce projet. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on est venu il y a 2 ans, partie de la même équipe pour présenter notre long métrage. Et dans le train en venant, je suis tombé sur José Lillo, que je connaissais pas du tout, comédien. Et pendant le voyage en train, qui est bien long entre Genève et Locarno, et il répétait déjà son texte.
Ah non, je croyais qu'il passait entre les gens en disant bonjour, je suis comédien, c'est pas facile, etc. Et qu'il tendait un chapeau.
Non, il y a beaucoup trop de virages dans le Centovali et tout ça. Et non, c'est pas le style de José. Non. Et on a commencé à discuter sur plein de choses, dont ce texte, donc, qui m'a fait découvrir, sur lequel il était en train de travailler. Et il a fait un choix sur ses 60 pages d'un monologue de 2 heures qu'il a joué, qu'il a mis en scène. C'était un passage de ce texte, de ce pamphlet à la scène. Et voilà, donc on discussion là autour. Et une année plus tard, j'ai vu ce spectacle qui s'est joué en mai à Saint-Gervais, et là, ce que dans un seul endroit, un seul théâtre, pendant 2 semaines, sauf erreur. Et pour moi, ça m'a 3 semaines, ça m'a complètement bluffé. Et par le texte, d'une actualité incroyable, par tout ce qui est dit, par tout ce qui est su, on y reviendra certainement, et par le jeu de José, par sa prestation, par ce qu'il propose, par sa relecture de ce texte, la façon dont il l'a mis en bouche. Et complètement subjugué par cette histoire, je me dis mais j'ai envie d'en faire un film, j'ai envie de le mettre en image, de continuer à pousser ce cri plus loin, à le faire résonner ailleurs, et comment donner une autre forme encore à cette histoire. Donc c'est pour ça qu'on profitait du travail qui était déjà commencé par José, justement cette sorte d'intégration de, c'était 2 heures de monologue, mais justement uniquement dit de tête, enfin vraiment avec une présence très très forte, et comment le continuer, comment le remonter, comment le modifier, pour lui donner une forme audiovisuelle.
Ouais. Alors le projet prend forme, tu as une envie, tu as une idée derrière la tête, vous en discutez, c'est, tu es le réalisateur mais il est quand même l'acteur incontournable. Comment ça se discute ça justement de le mettre en scène d'une façon différente puisqu'il a été mis en scène?
Ben, c'était assez drôle, chaque projet est une autre expérience, là j'avais jamais fonctionné de cette manière là. Pour moi il y avait l'envie de le faire, c'était important étant humainement, politiquement que... par le désir de le faire. José avait déjà tout ce travail de jeu qui était déjà travaillé, donc c'était pas des directions d'acteurs à chaque phrase, vu qu'il y avait c'était plus sur des enveloppes globales, de discussions de comment le faire. Mais surtout, on a commencé à proposer plein d'endroits de tournage, de tourner ça dans des terrains vagues, de tourner ça sur des voies de chemin de fer en marchant, de tourner ça dans des trains, d'aller dans des énormes supermarchés où je me mettais dans le caddie et il poussait le caddie en faisant le texte. Et chaque fois te dire comment ce texte résonne si on est à Aligro ou si on est dans un parking souterrain ou si on est sur une voiture ou si on est sur des voies de chemin de fer désertes. Chaque fois ça évoquait, ça faisait des retours avec l'actualité, avec le passé, mais finalement qui était beaucoup trop premier degré. On est sur des voies de chemin de fer, c'est le train, c'est la déportation, on est dans un supermarché, c'est Michael Moore ou la société d'hyperconsommation, c'est... Et comment, en fait, épurer? Et en fait, tout le travail a été de se mettre en retrait pour finalement, on s'est retrouvé avec avec Julie Gilbert, qui a vraiment accompagné aussi le film tout du long, dans une ferme pendant 2 mois où je me suis mis à filmer ces paysages, ces orées, ce sorte de présence énigmatique de l'orée des bois qui se trouvait là. Et vraiment à faire tout un travail vraiment visuel, vraiment comme pictural, mais en image. Et tout d'un coup, je me suis dit, ben voilà, c'est au milieu de ce champ, par moins 5 degrés, que j'ai envie de filmer José disant son texte. Et on s'est mis dans des conditions vraiment plantées là au milieu, un ingénieur du son, et pendant 2 heures, avec quelques micro-coupes, parce que tout d'un coup, il y a trop de vent ou un avion qui passe en dessus, pouvoir faire ce texte, et j'avais besoin qu'il soit fait dans une douleur, qu'il soit fait dans un... À un moment donné, je me dis peut-être faut traverser l'Europe et c'est en marchant ou faire un chemin, mais là encore c'est pas Compostelle. Faut comment sortir de toute référence politique, religieuse ou quoi que ce soit, mais que ce soit dans la douleur et que ça sorte et que ce soit pénible. Et c'est ça aussi qui sort du film.
Vous le confirmez, ça a été pénible?
Non, c'est pas la douleur, c'est l'effort, c'est l'effort soutenu. Je sais pas, c'est comment on vous dit. Allez-y maintenant, parlez 2 heures. Allez. Ça va physiquement, ça va pas de soi, c'est comme d'aller courir.
C'est aussi l'exploit sportif, on va dire. Enfin, ça peut être apparenté à ça.
Les Jeux Olympiques de José Lillo.
Un engagement corporel. Enfin, il y a un engagement qui il faut soutenir l'engagement. En fait.
C'est le 2 heures parler non-stop. C'est une discipline non olympique, mais qui pourrait le devenir.
Absolument, avec plein de barrières,
plein de chaînes, plein de menottes. Mais on va y revenir. On va revenir surtout au texte, au contenu et à tout ce qui a lancé ce projet Valpurgis. Oui. On va y revenir, hein, pas de souci. On laisse les gens passer une page de pub, regarder un petit peu la cérémonie, et puis ils reviennent et ils écoutent. Et pendant ce temps-là, on leur met un morceau de musique, Roger.
Ouais, on va essayer. On va essayer, on va faire ce qu'on peut. Merci, à tout à l'heure.
3. Just the number one champion sound. Yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Set up a motor, we need more seats. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. It's really, really nice to meet ya. I just met this 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath him. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains and New York's wide awake. First let's see the West End, I'll show you to my brethren. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy, American boy. Let me get away this weekend, take me to Broadway. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. To Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death, I'm loving no show toes. Walking that wall, talk that slick talk, liking this American boy,
Who killing them in the UK? Everybody gonna say UK. Reluctantly, cause most of this press don't f*** with me. Estelle once said, tell me, cool down, down. Don't act a fool now, now. Always act a fool, ow, ow. Ain't nothing new now, now. He crazy, I know what you're thinking. Rapping, I know what you're drinking. Rap singer, chain blinger. Holla at the next chick soon as you're blinking. What's your persona about this Americana? Rhymer, am I shallow? Cause all my clothes designer. Dress smart like a London bloke. Before he speak, his suit be spoke. And you thought he was cute before. Look at this peacoat, tell me he's broke. And I know you ain't into all that. I heard your lyrics, I feel your spirit. But I still talk that cat. Cause a lot of wags wanna hear it. And I'm feeling like Mike at his baddest. Like the pips at they gladdest. And I know they love it. So they hit with all that rubbish.
Would you be my lover? Could you be mine? Would you be my lover? Would you be mine? Could you be my lover? Would you be my
les gens de culture soignent-ils leurs cheveux avec Yafol? La réponse d'un poète. Yafol me fait beaucoup de bien. Je l'utilise chaque matin pour tonifier ma blonde de toison, rafraîchir mon crâne de poète, et d'une façon générale, parce que c'est bon pour les cheveux, la peau et la tête. Yafol! Voilà donc le poète qui surveille la porte spirituelle ouvrant sur le Troisième Reich.
Yafol, parce que vous le valez bien, en fait. C'est un petit peu ça, le sens.
Non, c'est un jeu de mots, parce que le shampoing s'appelait vraiment Yafol. Donc, oui, c'est pour de vrai, ouais.
Mais tout est vrai. Moi, je crois qu'il y a un peu d'humour. Je me dis, tiens, on a inventé des choses. Non, tout est tragiquement vrai.
Tout est vrai. Ce sont des citations, exactes, hein.
Il se nourrit que de ce qu'il lit et qu'il voit autour de lui.
Il n'y a pas de déformation, en fait. Il arrive à cet effet de parodie par la citation. Il retourne la chose contre elle-même en la citant. C'est sa force.
José Dillo, c'est vous qui avez mis au fond quelque part Frédéric Chauffat sur ce projet, sur ce texte qui était écrit en 33, qui était non pas prémonitoire, qui était simplement, on va dire, journalistique, qui compilait des choses, des informations que tout un chacun pouvait avoir.
Tout à fait. Il faut savoir que Karl Kraus avait un journal, enfin lui-même était journaliste, mais était une sorte d'anti-journaliste. Il avait un journal qui s'appelait La Facal, dans laquelle il passait en revue l'époque, en fait, en allant regarder, enfin, il faisait une revue de presse comme ça et posait des jugements derniers sur ce qu'il se passait. Donc, en effet, les matériaux qu'il a utilisés, ce sont des matériaux de presse, des matériaux radio, des discours officiels. Donc, tout ça largement diffusé. Ce ne sont pas des sources secrètes.
Alors oui, donc, parce que ça met en perspective le discours nazi, le discours d'Hitler. Au fond, aussi, on n'avait qu'à lire Mein Kampf à l'époque. Il était publié. Il n'a pas été traduit tout de suite dans d'autres langues ou une traduction pirate, je crois, en anglais. Mais l'information existait. Le discours déjà génocidaire, on va dire, d'Hitler était connu. Et toutes les dérives, on pouvait les découvrir donc par le biais, vous disiez, radio, autres écrits dans les journaux. Et tout ça, ça appelle la question, et je pense que ça a dû faire beaucoup dans le questionnement de mettre ce sujet en forme et autres, c'est de se dire, qu'ont fait les gens? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont oublié de réagir? Est-ce qu'on n'a pas voulu réagir? Est-ce qu'on a laissé faire? C'est ça, ça fait partie du...
Mais ça, c'est le grand mystère. C'est sûr que, pour moi, tout simplement, on parlait de l'idée du mensonge. L'idée, on nous a toujours dit, il y a cette phrase, on ne savait pas, on a l'impression que ça a été découvert en 45.
Il y a des gens qui, même en 46, disaient, on ne savait pas, j'étais responsable, mais je ne savais pas.
Voilà, exactement. Et là, tout d'un coup, de se dire, ça a été écrit en 33, Karl Kraus est mort en 36, ça a été édité en 52 en Allemagne et en 2005 en France. Il n'y a pas d'autre traduction au monde. Semble-t-il qu'il y a peut-être une espagnole qui vient de sortir, et au Japon. Voilà. En anglais, il n'existe pas, par exemple. Donc, de se dire, tout ça, était écrit. C'était quoi la question déjà?
C'était si c'était un des moteurs du projet, effectivement, de se poser ce genre de questions, oui. De s'en inquiéter et de peut-être faire que ça ne se répète pas. Hein.
Oui, alors ça, on est peu de choses là au milieu, mais c'est vrai que la grande question, c'est le silence et l'immobilité de la communauté internationale que Krauss dénonce. Et plus que ça, c'est la même démarche qu'a eu José 2 ans auparavant, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, et sans vouloir faire des amalgames ou de faire des sortes de copier-coller entre aujourd'hui et hier, parce que c'est aujourd'hui, c'est avant-hier, c'est etc. C'est de se dire comment ça se fait que chaque jour on lit des choses et finalement ça passe dans le journal et le lendemain on l'a oublié, et de comment est-ce que soi-même, c'est pas moraliste, moi-même comment j'arrive à dire que il y a eu 2 personnes expulsées dans ma rue avant-hier, j'ai un truc comme quoi ça s'est mal passé et tout ça, je lis une brève de 3 lignes dans n'importe quel canard. Et 10 minutes après, je suis déjà en train de lire une autre page et de passer à autre chose, et cette information est déjà passée, sans avoir rien pu faire, sans être allé frapper, demander aux voisins ce qui s'est passé réellement. Et on est tellement abreuvé, inondé de tout ça, que finalement, les choses, elles passent comme un flot ininterrompu.
Ce qui s'est passé, on le verra peut-être dans La Forteresse, de Fernand Melgar, qui lui, s'est plongé sur un sujet, justement, tout à fait d'actualité sur les requérants d'asile et autres qui sont, entre guillemets, parqués même ici, tout près de chez nous. Mm-hmm. Alors, le projet, tourne autour d'un jeu avec la caméra. Tu as utilisé toutes les facettes, on va dire, du plan fixe, jouer avec l'image, la découper, le split screen, tout ce qu'il peut y avoir. Puis alors, il y a des gens qui sont venus aussi, ils vont aussi avoir quelque chose à dire. Ce sont les musiciens, vous auriez des regrets. Dites-nous, comment est-ce que vous avez trouvé la tonalité à mettre sur ces images ? Et il faut prendre le micro pour répondre.
Mais comme on est deux...
on n'a qu'un micro pour deux, vous savez ce que c'est.
Alors, comment ça s'est passé ? Fred nous a envoyé un montage, en fait, et on a regardé ça alternativement. Alors, moi, je vais parler pour moi, dans un premier temps, puis je passerai à Jean-Christophe le micro. Moi, ce qui m'a, dans un premier temps, interpellée, c'était les éléments séparément, c'est-à-dire la prise de position cinéma et le texte. Et puis, j'avais du mal à relier, en fait, les deux. C'est-à-dire, je me disais, j'entendais le texte, je fermais les yeux, j'ouvrais les yeux, enfin, etc., quoi. Et après, ça c'est vraiment ma première perception. Et ensuite, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Et Fred est venu à la maison. Et puis, on a sorti avec Jean-Christophe nos dispositifs d'improvisation. On s'est mis une grosse image, très très grosse.
La maison étant au sud de la France, donc c'était loin, il y avait du travail quand même.
Ouais, et puis on a commencé à improviser en découpant le film en sections, 5 sections. Et on a fait comme ça des tranches d'improvisation. Et puis après, on a affiné. Et très vite, c'est ça qui m'a... que j'ai trouvé ça assez intéressant, c'est que très vite j'ai eu l'impression qu'il y avait une espèce de... ça se télescopait et ça créait un objet, un autre objet, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça... j'étais vraiment très, très heureuse de ça, quoi. Maintenant, Jean-Christophe.
Bien sûr, du coup, j'ai 2 micros. Ça s'est fait, en fait... c'est pas la première musique de film, mais en tous les cas, c'est la plus agréable dans les moyens de production, même si on avait peu, mais la plus intelligente. C'est-à-dire que ça s'est fait de façon artisanale, et pour moi c'est la meilleure façon par rapport à la façon industrielle de produire des films. Je trouve ça beaucoup plus intelligent, c'est-à-dire qu'on a pris le temps de travailler ensemble. Voilà, on était dans une pièce et nous on envoyait des sons, des propositions, on prenait le temps de savoir ce qui était intéressant. Et je trouve, et puis d'éliminer ce qui était moins bon, et je trouve qu'on est arrivé comme ça à créer quelque chose avec la voix, qui s'enroule autour de la voix, qui peut la porter ou la retenir, enfin aller dans le même sens de ce cri, quoi.
Voilà.
Donc... Et c'était un boulot passionnant, hein. C'était vraiment étonnant de passer de ce projet vraiment que de voix, et tout d'un coup, faut vraiment dire, la musique aussi de Christophe Carol, c'est une musique concrète, c'est une musique expérimentale, c'est une musique faite de bruit, c'est une musique d'instruments détournés, c'est un gros pot de, j'ai le droit de dire des trucs, ou c'est des copyrights, un gros pot de sel marin avec un micro dedans qui fait des et qui transforme complètement l'univers sonore de ce qui va se passer autour,
hein. Qui transforme aussi le micro après, hein. Dis ça pour le, ton ami d'enfance technicien qui... On va pas faire ça en direct avec les beaux micros.
Et voilà, ça a été vraiment une sorte de deuxième étape, de deuxième naissance du film qui a été passionnante à faire, justement, dans ce salon avec des câbles partout.
Alors le projet, bah, le film existe, il est à voir ici à Locarno, il sera à voir ce soir au la salle Rialto 2 à 22h et en salle après.
Non, alors c'est ce que je voulais dire justement sur le projet, c'est moi c'est pas un film, après c'est un peu toujours prétentieux, parce que c'est un essai cinématographique, à savoir c'est pas une fiction, c'est pas un documentaire, c'est un produit, pas enfin c'est pas un produit ça, c'est un objet, c'est une sorte d'ovni, c'est vraiment une parole, c'est un cri, c'est pas joué, c'est pas on essaye pas de faire croire à une crédibilité, c'est un cri, c'est Karl Kraus a crié.
On le verrait assez dans une exposition par exemple.
Oui, et en même temps j'ai pensé à ça à un moment donné et je me disais mais c'est dommage de rester, de voir 10 minutes, on peut voir 10 minutes et repartir, il y a 10 minutes qui sont bonnes à prendre, mais de devoir rester 1 heure et d'écouter ça jusqu'au bout, alors bien sûr on se fait un peu taper sur la tête, bien sûr il y a une difficulté à on ne comprend pas tout au premier regard et peut-être besoin de le voir 2-3 fois, ce qui était étonnant avec la musique, d'abord au montage j'ai vu 200 fois pendant 10 jours de création musicale au sud de la France, on l'a vu mais tous les jours 2 à 3 fois, donc chaque fois 1 heure, mais à la 50e vision chaque fois le texte me ramenait encore à d'autres choses, des autres analogies, c'est un texte très très riche au niveau de son langage, au niveau de ce qu'il raconte, et c'est pour ça que j'ai envie que les gens se disent font un effort, c'est pas du tout un objet mâché, lifté, joli, qui est facile à regarder. Si je reviens sur la douleur ou la souffrance, sans que ce soit négatif, mais dans le truc, voilà, c'est comme quand on court, on peut courir 10 minutes, ouais. Si on court 1 heure, on est plus fatigué à la fin, mais ça fait du bien, quoi. Qui c'est qui dit ouais?
C'est Roger. Il y en a un qui soupire. Non, c'est Roger, oui. ça voudrait-il dire qu'il est...
J'avais complètement oublié que mon micro était ouvert. Et je disais ouais à Jérémy qui me disait un truc... On allait mettre
d'accord,
deux morceaux,
mais,
peut-être
mais,
alors, excusez-moi.
Mais vous avez totalement raison. Allez-y, clôturez. Oui. Et après, votre temps de parole sera écoulé.
Je voulais juste dire que c'est vrai qu'une des pistes d'écoute, parce que c'est quand même un texte très dense pour une première fois, je trouve, c'est donc Frédéric et Julie qui nous avaient mis dessus, c'est le parallèle avec ce qu'on a maintenant et avec la façon dont l'idéologie imprègne les médias. Et enfin, nous, en tant que Français, actuellement, avec le gouvernement de Sarkozy, le texte résonnait. Alors,
vous l'avez élu, hein.
Oui, mais enfin bon, d'accord.
Allez-y.
Non, je voulais dire ça, que pour nous, c'est un peu différent, parce que même si on n'est pas en 33 et qu'on fait pas de copier-coller d'histoire, on est en France. Et effectivement, très régulièrement, on expulse des gens.
Mais en Suisse aussi, hein.
Qu'on les expulse, évidemment, la police, qui sont des gens peu fréquentables, s'amusent avec ces gens-là. Donc il y a des fois des gens dans les avions qui, ils ont été renvoyés dans leur pays, mais ils arrivent morts dans leur pays parce qu'on les a un peu... C'est assis dessus pour qu'il fasse moins de bruit, etc. Donc tout le monde le sait. Il y a aussi des passagers dans les avions, ça se sait. On sait aussi qu'on est de plus en plus fichés, que la loi autorise maintenant à ficher au nom, non pas pour lutter contre le communisme, mais pour lutter contre le terrorisme. Dès qu'on adhère à un parti politique ou à une association, on a le droit d'être fiché, que tous les services de renseignement sont maintenant dirigés par une seule personne, le président, qui est petit aussi. Et voilà, donc je pense que ce texte, pour nous, vu de la France, nous résonne très fortement.
Eh ben voilà, eh bien ce sera le mot de la fin, ça résonne, Roger.
Ouais, ça résonne jusqu'ici. Voilà, les chars ne sont pas encore à nos portes, nos amis. En attendant, on est dans la Pravda. On a reçu des nouvelles de Pékin dans notre oreillette. Il va falloir écouter deux morceaux maintenant. Il va falloir écouter deux morceaux et on reviendra avec vos prochains invités. Ça marche, Y?
Mais oui, tout à fait.
D'accord, on écoute un repérage couleur 3, les Black Kids. Ça s'appelle I'm Not Gonna Teach Your Boyfriend How to Dance.
Toute la Pravda, rien que la vérité sur couleur 3.